Qu'est-ce que la confiance en soi? Si l'on s'en tient à la définition du Larousse, la confiance en soi est sentiment, conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquelles on puise une certaine assurance. En psychologie, la définition est proche. On peut très simplement caractériser une personne qui a confiance en soi selon deux critères. Elle se sent capable d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé et elle croit sincèrement en ses capacités, ses talents et son efficacité. Agir et avancer sont possibles grâce à cette croyance. La confiance en soi permet de ne pas tergiverser à l'infini sur les décisions à prendre et de se lancer sans complexe dans des projets qui nous animent. Nos actes prennent corps au sein de cette dynamique de confiance qui confère un sentiment d'accomplissement et porte la promesse que l'on peut continuer à aller au-delà de soi-même. La confiance en soi suppose trois compétences. On ne cherche pas le regard de l'autre pour y puiser une validation nécessaire. Au contraire, on avance à découvert, avec une puissance volontaire, dans une alchimie de force et de souplesse. On a une bonne connaissance de soi, de ses points forts et de ses points faibles, et l'on est honnête face aux défis et à ses désirs. On est capable d'encaisser les échecs, de les digérer, de les intégrer comme faisant partie du processus normal de vie et d'apprentissage. La notion d'acceptation de soi est à ce titre très importante. Le déroulement de notre parcours scolaire, notre place au sein de la famille, la façon dont ont été gérés les échecs et les victoires par cette même famille, tout cela a une incidence. De façon générale, la confiance en soi est un sentiment que tout le monde recherche, qui permet de se sentir bien avec soi-même, d'avancer armé d'une bonne dose d'audace et de braver les risques et les blessures pour en extraire la substantifique moelle, ce qu'il y a de plus précieux, le sentiment d'être vivant. C'est croire aux possibilités et essayer. Pourquoi la confiance en soi est-elle si importante? Parce qu'elle permet d'aborder l'existence, les autres et le monde de façon plus sereine. Nos projets, nos défis, nos choix, les impondérables se vivent avec une force tranquille et fluide. Nous sommes prêts à rebondir, à nous adapter à ce qui se présente. La prise de responsabilité face à la difficulté est plus aisée et se fait la tête froide. Ayez confiance en vous ! Est ainsi la formule magique à laquelle nous avons tous envie d'adhérer. Cependant, ce sentiment n'est pas statique et connaît des variations tout au long de la vie. Nous y reviendrons plus loin. Comme le fait remarquer le philosophe Charles Pépin dans son livre « La confiance en soi, une philosophie », nous ne sommes pas, nous ne faisons que devenir. Nous n'avons pas confiance en nous? Ce n'est pas grave. Prenons confiance en ce que nous pouvons devenir. Se sentir efficace, se sentir compétent. D'autres concepts viennent apporter leur pierre à l'édifice et compléter cette définition à l'aune de son potentiel et de ses capacités. Ainsi, la notion d'auto-efficacité, décrite par Albert Bandura, psychologue canadien, chantre de l'apprentissage social, contribue au sentiment de confiance en soi. Il la décrit comme le sentiment de compétence que les gens portent sur leurs aptitudes à organiser et à exécuter les actions requises pour atteindre un type de performance donné. Le sentiment d'auto-efficacité est un facteur clé de la confiance en soi. Les personnes qui croient en leurs capacités voient les tâches difficiles comme des défis à relever plutôt que comme des menaces à éviter. Elles n'ont pas peur de se fixer des objectifs, de s'impliquer et de fournir beaucoup d'efforts, restant concentrées sur la tâche et adaptant leur stratégie face aux obstacles. Elles abordent les menaces ou les stresseurs potentiels avec la confiance qu'elles peuvent exercer un certain contrôle sur eux. Cette perspective efficace améliore les performances, réduit le stress et diminue la vulnérabilité à la dépression. À l'inverse, les aptitudes personnelles peuvent être facilement limitées, voire annulées, par des doutes sur soi, de telle sorte que des individus talentueux peuvent faire un piètre usage de leurs aptitudes dans des situations qui sapent leur croyance en eux-mêmes. Ces personnes évitent les tâches difficiles dans les domaines où elles doutent de leurs capacités. Elles ont du mal à se motiver et diminuent leurs efforts ou abandonnent rapidement devant les obstacles. Elles ont des aspirations réduites et s'impliquent faiblement vis-à-vis des objectifs qu'elles décident de poursuivre. Dans les situations éprouvantes, Elles s'appesantissent sur leurs insuffisances, sur les difficultés de la tâche à accomplir et sur les conséquences problématiques de l'échec. Savoir aborder les obstacles. Il est intéressant de voir la façon dont filles et garçons abordent les obstacles sur le chemin de leur accomplissement, la confiance en soi étant un élément clé pour les affronter plus sereinement. David Dunning, psychologue américain et professeur de psychologie à l'Université de Cornell, a remarqué que, lorsque les examens étaient particulièrement difficiles, les étudiants ne réagissaient pas de la même façon selon qu'il s'agissait de filles ou de garçons. Dunning a remarqué que les étudiants masculins vont typiquement voir l'obstacle pour ce qu'il est et réagir à leur note basse en disant « Waouh, c'est un cours difficile », ce qui est connu pour être de l'attribution externe, et dans ce cas-là, c'est en principe un signe de résilience. Les jeunes femmes ont tendance à réagir différemment. Cela ressemblerait plutôt à « je ne suis pas assez bonne », ce qui relève de l'attribution interne, et cela peut être débilitant. Il est évident que ramener le problème à une faute personnelle, un trait de caractère, une défaillance, ne peut que flétrir le jugement porté sur soi, être dévalorisant et ainsi altérer la conviction de sa propre capacité à réussir. Les filles ont donc davantage tendance à l'attribution interne, qui revient à penser « c'est de ma faute si j'échoue ». Alors qu'un garçon aura plutôt recours à une attribution externe « j'échoue parce que l'examen est trop dur, le prof trop sévère, etc. ». Nous y reviendrons plus tard. Le psychologue François Ruff retient, quant à lui, quatre façons dont ce système de compétences se met en place. Les expériences de maîtrise. Lorsqu'un individu obtient un succès, celui-ci permet de croire en ses compétences. À l'inverse, un échec abîme cette croyance. Les expériences vicariantes. Le fait de voir des personnes semblables à soi réussir grâce à un effort soutenu augmente la croyance en ses propres capacités de réussite. La persuasion sociale. Les personnes qu'on a verbalement persuadées d'avoir les capacités nécessaires à maîtriser une activité donnée sont plus enclines à mobiliser et à soutenir un effort que si elles doutent d'elles-mêmes. Les états physiologiques et émotifs. Le sentiment doit trouver reflet dans le regard des autres et dans leur interprétation de son comportement comme exprimant la compétence. Confiance en soi, philosophie et introspection. Le sentiment de compétence est essentiel pour saisir les racines de la confiance en soi, mais il peut être complété par l'éclairage de la philosophie, qui vient apporter des clarifications complémentaires, notamment sur le rôle de l'incertitude. L'incertitude et l'aspect relatif de l'existence sont incontournables et font partie, entre autres, de la condition humaine. Se chauffer au bois de l'inconnu et avoir un regard ouvert sur celui-ci plutôt que de l'ignorer peut aider à raffermir notre confiance en nous. Même si les erreurs sont au rendez-vous, armés d'une solide confiance, on peut mieux les comprendre et repartir vers son destin. Le « connais-toi toi-même », gravé à l'entrée du temple de Delphes et repris par Socrate dans « Le premier Alcibiade », est une piste évidente sur le chemin de la confiance en soi. Cet adage a connu diverses interprétations au fil du temps. Au 1er siècle, Philon d'Alexandrie préconise la connaissance de soi comme source de bonheur. Pour acquérir la sagesse, il nous faudrait sonder notre âme, nos sensations, notre raison, nous soucier de ce qui nous anime et non pas de ce qui nous est extérieur. Au 2e siècle, les gnostiques recommandent de s'interroger sur soi-même, sur sa nature profonde mais aussi sur la destinée humaine. Autant d'exhortations à la connaissance de soi dans un but de sagesse. Philosophes, psychologues et psychanalystes nous poussent à l'introspection, parce que se connaître soi-même, c'est éviter de se dissiper, de se perdre dans les apparences. Lorsque nous savons profondément ce qui nous convient, nous faisons les choix qui s'imposent en toute confiance. C'est la nature profonde du cogito cartésien. Observer son paysage intérieur, son état mental, identifier ses émotions, ses sentiments, analyser ses pensées sont autant d'outils pour nous connaître. L'introspection nous aide à identifier nos atouts et nos failles, à gérer nos émotions, à nous adapter à des situations inédites, à nous remettre en question. En progressant dans la connaissance de soi, on peut devenir une meilleure version de soi-même. Dans nos vies à 100 à l'heure, l'introspection est nécessaire. Mais elle implique de s'accorder un temps pour soi, d'échapper à la dispersion, de se recentrer.